Vous écoutez
RMC.
RMC.
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be
here? I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we'll go to fish. Huh?
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Welcome to the after foot with Kevin Diaz and Roland Courbis. How are you, misters?
Nice English.
Of course.
Ouais.
Oh yes.
Message sur le directif de ma prof d'anglais de 5e qui va pas bien. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. L'after est là. Bien sûr, on sera avec les drôles de dames dans un peu plus de 20 minutes pour revenir sur les résultats, les principaux résultats du jour. La victoire de l'Italie contre l'Angleterre 1-0. La défaite de l'Allemagne à domicile contre la Hongrie. On sera avec Julien Laurence, Johan Crochet et Paulo Breitner. On sera aussi dans un quart d'heure avec nos aventuriers, nos supporters français qui sont partis il y a un mois. Rappelez-vous, on les avait vus dans l'after en vélo pour le Qatar. Ils ont leur billet pour les matchs des Bleus en poche et donc ils font le trajet à vélo. Ils sont en Turquie ce soir et ils nous raconteront un petit peu comment se passe ce trajet tout à l'heure. Mais tout de suite, alors que je vous rappelle qu'on a toujours un œil sur Federer-Nadal, hein, le double, dernier match bien sûr de Roger Federer, dernier match de sa carrière. Eric Salio est à Londres pour suivre cette Lever Cup et donc ce double, on ira voir Eric dans quelques minutes. On parle là de l'OGC Nice. On pensait qu'il préparait déjà ses cartons et en même temps il ne doit pas en avoir beaucoup, hein, ça fait 3 mois qu'il est là. Mais Lucien Favre garde son poste et c'est une surprise. Les dirigeants de l'OGC Nice songeaient à le remercier. Il y a eu des discussions avec Pochettino, mais il n'y a pas eu d'accord trouvé. Et finalement, aujourd'hui, retournement de situation. Réunion Dave Brailsford, le directeur des sports d'Ineos et Favre. Et à la sortie, Lucien Favre finalement maintenu. Bon, on imagine qu'il a quand même intérêt à vite redresser la barre. Nice est 13e de Ligue 1 à 11 points du podium. Supporters niçois, on vous attend au 32-16. On vous attend sur le hashtag RMC Live ou sur le Direct Studio pour commenter. Favre maintenu. Est-ce une bonne nouvelle? Je pose la question à Kevin et à Roland. Kevin.
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Il faudrait savoir si les informations de l'entretien avec Mauricio Pochettino sont vraies, je pense. En tout cas,
oui, après, il y a eu l'approche.
Après, pourquoi Mauricio Pochettino n'est pas là? Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question d'accord? Je suis curieux de le savoir. Maintenant, concernant Lucien Favre, j'ai l'impression quand même que le retour comme ça d'un entraîneur qui a eu beaucoup de succès et beaucoup de bons moments avec un club, c'est quand même assez dangereux. Mais ça, c'est le coach qui pourra nous en parler parce qu'il a plus d'expérience. Mais il y a un moment, lorsque Lucien Favre a performé avec le GC Nice, c'était une autre direction, même si River était là, il décidait de beaucoup de choses. Là maintenant, River, il fait un petit peu office de... je vais pas dire de président d'honneur, mais presque. On n'a pas l'impression qu'il a vraiment toutes les manettes et que ce soit lui qui soit aux commandes. Donc c'est une situation qui est compliquée à Nice. Quand tu commences à entendre parler de oui, on a une discussion. Finalement, il reste. Finalement, il lui reste quelques matchs pour prouver. C'est un peu pareil à Lyon. Honnêtement, c'est déjà le début de la fin. Alors il peut retourner la situation, mais va falloir enchaîner les victoires. Et je ne vois pas bien comment cette équipe de Nice va réussir à enchaîner victoire sur victoire au vu de la qualité de jeu qui est proposée, au vu du recrutement qui est complètement déséquilibré. Moi, l'échange Gouiri pour Laborde, je suis désolé, mais je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas du tout, à moins qu'il y ait vraiment un problème interne avec Gouiri. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur les prochains jours à Nice. Et je souhaite bonne chance à Lucien Favre et son staff pour lever tous ces doutes.
Roland,
Disons que pour répondre à ta question, est-ce que c'est une bonne chose?
Absolument.
Moi, je dis que ça peut l'être. Donc, puisque là, il débarque, je réponds aussi à ta question. Un retour, il y a les avantages et les inconvénients d'un retour. Je suis bien placé pour le savoir, puisque ça s'est passé avec les Girondins de Bordeaux, moi, un retour Montpellier, Ajaccio. Donc, j'ai eu la chance que chaque fois, ça s'est bien passé. Ah, mais
ça peut bien se passer.
Ben oui.
On entend des fois que c'est comme les ex, faut jamais retourner avec. Finalement, c'est une connerie, quoi.
Ben écoute... peut-être, ouais. Mais peut-être aussi qu'on peut pas, on peut pas généraliser.
Ouais, je vais peut-être appeler des gens ce soir.
Moi, ce que je constate, c'est que pour le moment, je dis bien pour le moment, En plus de ça, il y a eu une coïncidence qui fait que Pochettino a été contacté, donc peut-être que Lucien Favre reste en place parce qu'on n'est pas arrivé du côté de Nice à tomber d'accord avec Pochettino. Toujours est-il qu'il y a des coïncidences, et des coïncidences, je me suis aperçu depuis de longues années que 9 fois sur 10, ce ne sont pas des coïncidences. Mmh. Et donc, pour moi, Pochettino, qui n'est plus à Paris, qui viendrait donc à pas après Favre, après Galtier, parce que celui pour moi qui pour le moment brille par son absence du côté de Nice, il s'appelle Christophe Galtier, et il s'appelle pas Pochettino du côté de Paris, du Paris Saint-Germain avec pratiquement le même effectif. Pour le moment, c'est totalement différent, et Christophe Galtier brille par son absence à Nice. Et même s'il fait pas tout parfait, mais faire tout parfait, c'est impossible. Ben, il brille aussi par sa présence au Paris Saint-Germain.
Dans un instant, je vais prendre Théo, 32-16. Juste, si vous me permettez 5 secondes de sérieux, chérie, je rappellerai personne si jamais, voilà, m'écoute.
Pas envie de. On a compris que c'était une blague, quand même.
Ouais, mais on sait jamais, tu sais, le mec, il tourne mal. Salut Théo, bienvenue dans l'After.
Salut tout le monde.
Tout va bien, Théo? T'es en pleine forme?
Bah oui, hein.
T'as vu quand même, Théo, que Thibaut Jean-Grand, c'est quand même un beau petit canard. Hein.
Ouais. Écoute, on ne va pas avoir de soucis. Bon, Théo, cette histoire d'amour entre Favre et l'OGC Nice qui continue un peu plus que prévu, finalement. Bonne ou mauvaise nouvelle pour toi? Je rappelle que, bien sûr, tu es supporter niçois, Théo.
C'est compliqué, parce que Favre, en tant que supporter niçois, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Supporter, on peut que aimer cet entraîneur-là. Il nous a fait vibrer alors qu'on n'était pas non plus au sommet. Mais moi, c'est plutôt, en fait, plus ce qui se passe au-dessus. Et malheureusement, Favre, il paye un peu les pots cassés de tout ce qui s'est passé cet été. Donc Fournier s'en va, mais personne ne le remplace. Ah, si, il y a un intermédiaire qui arrive. Ah oui, mais il y a le gars d'Ineos qui arrive. Il n'y a plus de directeur sportif. Et Rivière, il revient, et on ramène Favre. En fait, on ne sait pas où on va.
Vous étiez moins indulgent avec Patrick Vieira, avec ce qu'il avait connu, avec une direction qui était partie puis revenue. Hein.
Ouais, mais c'est différent parce que Ineos, ils sont arrivés, ils ont dit voilà, nous on veut être dans le top européen, on a d'énormes projets pour l'OGC Nice, donc ils arrivent avec un discours assez fort. Donc forcément, nous on est naïfs, on est supporters, on arrive devant un discours pareil, ben on veut des résultats, on nous ramène Favre qui nous a fait vibrer. Aujourd'hui, garder Favre, moi je trouve que c'est un peu, ben on n'a pas réussi à avoir Pochettino qui veut venir, ben personne, bon ben vas-y Lucien, il faut rester. Et en fait, ben le pauvre, ben il va rester. Après, il n'est pas tout blanc non plus. Moi, ce que j'ai pas aimé avec Favre, c'est ses conférences de presse. Alors oui, c'est bien, il parle de foot et tout, mais le discours qu'il donnait aux conférences de presse quand il y avait les nouvelles recrues, c'est « Ah oui, bah, il est bien, il peut jouer là, mais bon, on sentait qu'il ne jouait pas. »
Même une fois, il m'a dit « Oui, on m'a dit que c'était un 8,
ouais, voilà,
il faisait, Barclay. » Mais c'est vrai que je te rejoins sur un truc, Théo, je ne sais pas ce que vous en pensez, Kevin, Roland et même toi, Théo, j'ai l'impression que même au-delà d'Inos, Favre, qui a eu tromperie sur la marchandise, il est arrivé juin, il y a eu les beaux discours, ça nous parlait de jeu, comme tu dis, Théo, ça parlait ballon, on allait revoir le beau jeu à Nice après le Galtier minimaliste qui a été tant critiqué. On n'a rien vu, quoi. Favre, il avait quand même les joueurs, il y a eu un recrutement assez impressionnant cet été.
Quand je dis que Christophe brille par son absence, je rappelle quand même la saison dernière, bon, en championnat, c'est limite qu'ils auraient pu même faire un petit peu mieux. Ils vont en finale de la Coupe de France.
Oui.
Et perdent, bon, avec un penalty.
Oui. On a parlé de son jeu, mais Kevin, le jeu de Favre qui venait après Galtier, son jeu minimaliste, excuse-moi, c'est pas beaucoup mieux que le Galtier l'année dernière. Hein.
Alors là, je vais utiliser les mêmes arguments que j'ai eus la semaine dernière pour Peter Boss. Il y a un moment, pour mettre en place ton jeu, il faut quand même que tu aies les joueurs adéquats et que tu aies les joueurs qui aient les qualités nécessaires. Tu veux jouer avec un jeu qui va vers l'avant, c'est quelque chose quand même d'assez protagoniste, moi j'appelle ça comme ça en tout cas, c'est-à-dire que tu veux avoir la main sur le ballon, enfin le pied sur le ballon, la main sur le match, et donc c'est quand même difficile de juger Favre après si peu de matchs. sur ce qui est proposé sur le terrain. Le problème, c'est ce qu'on entend en interne sur le fait qu'il y ait des soucis avec les membres du staff, avec la façon de travailler de Lucien Favre, qui correspondrait pas forcément à ce que recherche Ineos. En tout cas, sinon, il n'aurait pas déjà choisi de partir à la rencontre de nouveaux entraîneurs presque. Donc il y a un souci là-dessus. Maintenant, concernant le jeu sur le terrain, moi je l'ai dit. Change Guiri, qui est un des meilleurs espoirs français pour Laborde, qui est un très bon joueur de Ligue 1, mais avec un profil complètement différent. Tu as quand même un déséquilibre énorme au niveau de tes postes de latéraux, où tu as seulement peut-être Attal, qui est un joueur digne des ambitions d'Ineos, mais qui est très souvent blessé. Et de l'autre côté, tu as quand même peu de joueurs où tu disais... Ouais, t'as Melvin Barr, qui est un bon joueur, mais pas pour jouer le top 3 ou le top 5 au minimum que veulent jouer les dirigeants niçois.
Le talentueux, le meneur de jeu, c'est-à-dire le gars.
Ils ont pris Sofiane Diop.
Voilà, ok. Mais le gars qui fait justement des choses que beaucoup d'autres joueurs ne font pas, c'est pas Ramsey.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, c'est plus Ramsey, en tout cas.
Ouais, d'accord. Mais bon,
c'est ça aussi le souci. Ouais. Quoi, avant de redonner la parole à Théo.
Il a été très bon, celui-là?
Ouais, Ramsey, ça a quand même été un beau joueur de foot, normalement. Ligue, mais il a joué quand même à la Juve aussi, mais sans grand succès. Juve, ouais. Mais Théo, il y a un souci, quand même, en termes de recrutement, on est d'accord? Et de profils ciblés, on a l'impression qu'ils ont été cherchés, ok, des joueurs anglais qui sont dans une impasse pour venir résoudre la situation déjà compliquée de l'OGC Nice en Ligue 1.
Théo.
Ouais, bien sûr. Moi, je pense que le problème, il vient au tout début du recrutement. Je pense qu'on arrive avec des grosses ambitions. Tout le monde sait que aujourd'hui, il y a aussi à l'argent pour le mettre sur la table. Alors après, il y a le problème du fair play financier qu'il faut pas oublier. C'est qu'aujourd'hui, Nice, ça reste un petit marché et que les rentrées d'argent, c'est pas Marseille, c'est pas Lyon, c'est pas Paris. Donc forcément, il faut faire du recrutement intelligent. Et j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ils ont peut-être visé des trop gros joueurs. Ils ont mis beaucoup d'espoir sur ces joueurs. Ça, c'est pas fait. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? On l'a pas fait lui. Bon, on va aller chercher lui. Moi, vous avez parlé de l'équilibre de l'effectif. Pour moi, le plus, c'est le numéro 9. Lucien, il est arrivé, il a dit, voilà, moi, je vais jouer en 4-2-3-1, 4-3-3. Donc, forcément, le numéro 9, il est hyper important. Il faut que ça soit quelqu'un qui sait jouer tout seul. Aujourd'hui, Andy Delors, tout le monde le sait, il ne sait pas jouer tout seul, devant.
On lui a amené la borne, hein.
Donc, en gros, on va lui amener un complément qui ne rentre pas du tout dans le système de jeu du coach. Okay. Donc, forcément, en fait, ça ne passe pas. Et on en a entendu parler, je ne sais pas combien de semaines, Cavani. Alors, c'est bien Cavani, mais au bout d'un moment, on met tout son espoir sur Cavani. Enfin, les gars, c'est quand même Cavani, quoi. C'est quand même un énorme joueur. Je peux comprendre aussi que Nice, ça ne soit pas sa priorité.
Cavani qui a fini à Valence, finalement.
Pas sûr que Cavani soit fait pour jouer tout seul en pointe non plus, mais bon.
Théo, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Passe une bonne soirée.
Et j'espère que la prochaine fois que je pourrai vous avoir, on aura gagné des matchs.
Ouais. Ben, j'espère pour toi que ce soit le 1er octobre au soir. C'est un déplacement au Parc des Princes pour l'OGC Nice.
Eh ben, c'est très bien, voilà. Pour se relancer.
Bah, ce serait une bonne nouvelle pour toi, en tout cas. Merci Théo, ouais. Passe une bonne soirée.
Allez, salut Théo.
À bientôt, bye bye. Beaucoup de messages de Niçois sur le direct studio et dans l'ensemble, vous n'êtes pas tendre avec Lucien Favre. Antoine écrit très mauvaise idée de garder Favre qui ne correspond pas au projet Ineos. Lennox écrit comme c'est parti, Favre ne finira pas l'année quoi qu'il arrive en termes de résultats. L'épisode Pochettino laissera des traces. Pierre Warren écrit, je suis Niçois, j'ai beaucoup apprécié Lucien Favre. Je pense que son maintien c'est une mauvaise nouvelle. On a un bien meilleur effectif que la saison passée et on est à la ramasse complet. Rapidement, Kevin.
Juste coach, prépare-toi parce que je pense que pendant la trêve de la Coupe du Monde, tu pourras avoir des coups de fil.
Le coup de pied Courbis va être appelé.
En tout cas, je me tiens prêt.
23h23, d'accord. Les gars, l'événement ce soir, c'est aussi.
Je vais être ton adjoint.
Le tennis. Le dernier match. Tu auras tes diplômes d'ici là, Kevin ?
Non.
Le dernier match de Roger Federer. C'est un double, la Lever Cup à Londres. Il est associé évidemment à Rafael Nadal et évidemment Eric Salio est sur place.
Ouais, et c'est parti sur des bonnes bases puisque Federer s'est déjà distingué avec un coup unique que j'ai personnellement jamais vu sur coup droit. Il a trouvé une sorte de trou de souris entre le poteau, vous avez le poteau qui est au pied de l'arbitre, le poteau du filet, ouais. Et le début de la bande du filet. Donc la balle est passée sous le poteau, mais elle a effleuré le poteau et sous la bande. Donc le point n'a pas été accordé à Federer, ouais. Mais c'est un truc... que j'avais jamais vu. Même Federer, en revenant sur sa chaise avec Nadal, il a dit, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et les mecs étaient éberlués. Éberlués parce qu'on se demande s'il l'a pas fait exprès. Donc c'est un formidable tireur d'élite. Donc déjà, la soirée est réussie pour Federer, qu'il a réussi un coup unique qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du tennis. Pour l'anecdote, il y a 2-1 pour le Team Europe face à Team World.
Bon, j'ai l'impression que ce soir, Eric,
Federer, s'arrêter là-dessus. Hein.
Ouais, il pourrait se moucher. Tu trouverais ça incroyable. On est d'accord.
Non, t'avais déjà vu ça, toi?
Je me demande si une fois, il n'y avait pas eu un Gasquet qui avait fait un coup comme ça, tu sais, un revers qui tape le poteau, qui revient.
Non, ça ah, mais là, pas. C'était. Il y avait un trou de souris, quoi. Il y avait juste l'espace d'une balle et il a réussi à la mettre.
C'est sa soirée. C'est sa soirée.
Cet endroit, c'est fabuleux.
A tout de suite, Eric, pour continuer de suivre en fil rouge. Le dernier match de Federer, le dernier match de la légende, 23h25. L'after en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz et Roland Courbis. Dans quelques instants, on sera avec nos supporters à vélo, supporters de l'équipe de France qui sont partis depuis un mois direction le Qatar pour la Coupe du Monde. Ils sont en Turquie. On leur passe un coup de fil en direct dans quelques instants. Et puis juste après, les drôles de dames pour débriefer les principaux résultats du jour. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Est-ce que mon Toto à la réalisation, il aura pas oublié le jingle? Il a mis juste ce qu'on appelle le bed, le tapis musical, mais pas de petit jingle. Bah écoutez, c'est l'after, sachez-le, Kevin Diaz est là, Roland Courbis. Il est 23h29, vous êtes sur RMC, merci d'être là en ce vendredi 23 septembre. Merci de nous écouter, de nous écrire peut-être sur le hashtag RMC Live sur Twitter ou sur le Direct Studio. Beaucoup de messages de Niçois qui critiquent Favre hein, dans l'ensemble. Alex écrit notamment, pour moi, si Favre n'a pas 20 points au moins à l'issue de la 15e journée, il ne peut pas rester l'entraîneur. C'était notre précédent débat que vous allez retrouver dans quelques minutes en podcast. D'ici minuit sur RMC, les drôles de dames dans une dizaine de minutes pour revenir sur les principaux résultats du jour et notamment la victoire de l'Italie contre l'Angleterre 1-0. On continue de suivre aussi en fil rouge le dernier match, la DER de Roger Federer qui est en double avec Rafael Nadal à Londres pour la Lever Cup. On retrouvera Eric Salio dans quelques minutes. Mais comme prévu, des nouvelles ce soir et on est très heureux de les recevoir à nouveau dans l'after de Gabriel et Mehdi. Ce sont ces deux supporters qu'on avait appelés la veille de leur grand départ. Ils sont partis du Stade de France direction le Qatar. On était le 20 août, je crois, deux mois avant le début de la Coupe du Monde, à vélo. Ils ont dans leur poche des billets pour aller voir les matchs des Bleus en poule. Et voilà, ils sont partis avec vélo, chambre à air et une tente, tout simplement. Gabriel, Mehdi, bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bon, salut les gars. Racontez-nous.
Salut les amis.
Vous êtes où là ce soir?
Là, on est dans dans une petite ville, Eskişehir en Turquie, à 300 bornes d'Istanbul. Et là, on est en direct de la tente du duvet, on a froid, mais c'est trop cool.
Il est quelle heure chez vous?
Il est minuit et demi déjà.
D'accord, une heure d'écart.
J'ai un ancien coéquipier qui a été très longtemps le gardien de Eskişehir Spor.
Ah bah oui. Et vous êtes où là? C'est quoi, dans un camping, dans un champ? Vous dormez où?
Alors c'est pas exactement un camping, c'est un petit jardin derrière un restaurant où on a mangé tout à l'heure et on nous a dit qu'on pouvait mettre les tentes. Donc voilà, un petit coin de pelouse, très sympa, mais il fait froid, on est à 800 mètres d'altitude. On a passé les 1000 mètres d'altitude la journée d'hier et puis ben, on se repose un petit peu comme on peut avant d'enchaîner demain.
Alors racontez-nous là, vous en êtes où du périple? Je disais tout à l'heure à peu près à mi-chemin, c'est ça? Même un peu plus peut-être?
Ouais, c'est ça, on a fait 3400 km, on pense qu'il y a entre 6 et 8000 km parce qu'on ne sait pas encore par où on passe. On prend un bateau dans le sud de la Turquie dans quelques jours pour Chypre et ensuite on va essayer de trouver un bateau pour Israël ou l'Égypte. Là c'est un peu l'inconnu pour le moment et derrière il nous reste à traverser Jordanie, Arabie Saoudite et Qatar, donc il y a encore un petit bout de chemin quand même.
Un peu de la triche ça de prendre le bateau les gars, on n'avait pas dit tout en vélo?
Alors sinon ça nous fait passer par la Syrie à vélo. Donc parfois on pense que ça vaut le coup de contourner un petit peu.
Petit joueur. Non je plaisante, vous avez raison. Alors, racontez-nous comment ça se passe. Est-ce que c'est aussi dur, plus dur, moins dur que prévu? Est-ce que vous avez eu des grosses galères, des anecdotes à nous raconter là sur ce début de voyage?
Enfin, franchement, il y a tellement de choses qui se passent chaque jour. En fait, il y a des journées hyper galères. Genre hier, j'ai eu 4 crevaisons. Il y a un pneu qui a explosé. J'ai jamais vu ça. Un pneu de vélo qui a explosé en plein milieu sur la route. Bon. Aujourd'hui, on est plus sur des galères gastriques. Moi, c'est de mon côté encore. Je suis en train de tout prendre.
La cuisine locale.
Ouais, la cuisine locale, elle est pas passée là, les gars. C'est chaud.
Roland, t'es entraîné en Turquie, toi. Non. Ah non, c'était juste. Ah non, c'était dans 3-0. Ouais, rien à voir. T'as joué un entraîneur turc.
Besiktas.
Ouais, à Besiktas, c'est ça, effectivement. C'est quoi pour l'instant, les gars, le meilleur pays, le meilleur moment là que vous avez fait sur votre parcours?
Ah, franchement, la Turquie, c'est assez incroyable. Surtout qu'on y reste en tout 2-3 semaines. En Europe, c'est allé assez vite. On passait 2-3 jours par pays. Là, pour l'instant, on est super content. On est tellement bien reçu par les Turcs. La générosité, elle est pas que théorique. On la vit tous les jours. Et alors, un grand moment, ce qui était incroyable, c'est quand on était à Istanbul, parce qu'on a traversé le Bosphore, donc entre la partie européenne et la partie asiatique d'Istanbul, à vélo. C'est quelque chose qui se fait pas normalement parce que c'est une autoroute qui traverse de la partie européenne asiatique. On s'est fait escorter par la police pour vraiment avoir rejoint l'Asie à coup de pédale. Donc ça, c'est vraiment somptueux avec les vues sur le Bosphore. Enfin, c'était un truc de malade.
C'est vrai que la Turquie, c'est un pays magnifique.
Est-ce que vous avez le temps de faire un peu de tourisme footballistique? Est-ce que vous êtes allé voir des matchs sur votre parcours?
Ouais, carrément. Alors en fait, on est allé voir deux matchs pour le moment. On est allé voir Başakşehir, Fiorentina en arrivant à Istanbul. Ah. Et on est allé voir un magnifique match de deuxième division serbe, le Zelenikar Pančevo. Alors on a foutu une ambiance dans les tribunes, c'était extraordinaire. Victoire 3-0 de Pančevo, les gars, c'était un match extraordinaire.
On est avec Gabriel et Mehdi en direct de Turquie, en direct de leur duvet. Froid ce soir dans la
Vous avez vu le match de l'équipe de France hier ou pas?
Non, on n'a pas pu, on n'a pas trouvé d'endroit pour le regarder. Et puis on a eu des galères, on est allé chercher des nouveaux pneus, donc on n'a pas eu le temps, mais on a vu le résumé. A priori, c'est pas si mal, donc c'est cool.
Oh, c'était pas
au
moins
ça gagne pour une fois.
Dimanche soir, vous serez où pour le dernier match des Bleus avant la Coupe du Monde, le Danemark-France?
Alors bonne question, on essaye de viser Konya en Turquie là d'ici quelques jours. Donc on espère que cette fois on va pouvoir le voir. On espère que les Bleus vont monter en puissance et puis surtout bah voilà, c'est dans 2 mois qu'il faut être au taquet.
Et quand vous avez vu les polémiques là sur le char à voile avec le PSG, l'avion, le char à voile, vous avez dû rigoler non vous sur votre vélo?
Non mais grave et surtout avec cette Coupe du Monde au Qatar, c'est vrai que bon il y a pas mal de polémiques d'un point de vue environnemental et c'est vrai que bah nous depuis le vélo c'est quand même quelque chose un peu qu'on regarde avec un peu d'amusement parce que bah on y va à la force des pédales et comme quoi c'est possible finalement.
Oui. Ouais. Faut prendre son temps avant quoi. Je rappelle que vous êtes chômeur ou pas d'ailleurs, vous pouvez rappeler.
On est indépendants tous les deux.
Ouais, voilà, indépendants. C'est ce qu'on dit quand on veut pas que l'assurance chômage se mette sur nos côtes. Une dernière question, les gars, est-ce que vous tenez le coup physiquement? Comment ça va? Vous avez pas perdu 10 kilos chacun, là? C'est comment?
Si, c'est vrai qu'on perd du poids. Physiquement, c'est assez dur parce qu'on enchaîne vraiment des grosses journées à 100, 130 km parfois, puis avec beaucoup de dénivelé, là, notamment en Turquie. Ce qu'on se dit tous les deux, parce qu'on n'est pas du tout des athlètes, mais c'est vraiment qu'on tient à l'adrénaline, au panache. Écoute, pour l'instant, ça va, ça nous fait avancer. Même si on dort peu, on dort pas tout forcément très bien. Souvent, on dort dans des mosquées aussi, donc on est réveillé de très bonne heure. Mais voilà, on est heureux de faire ce qu'on fait, et puis pour l'instant, ça nous fait tenir comme ça.
Vous pouvez rappeler
sur le parcours, ouais. Vous n'avez pas un petit hôtel de temps en temps quand même?
Si, on se fait des bah ça dépend. Là, bah, je t'avoue que on essaie d'éviter d'enchaîner 2-3 jours sans se doucher parce que sinon c'est chaud. Et puis on a quelques journées de repos de temps en temps, une fois par semaine à peu près. Mais franchement ça va. On est mentalement au top. Physiquement franchement les quelques jours de repos à Istanbul ça fait un bien fou. Donc on est d'attaque. On va arriver à temps à Qatar. Ça y a aucun doute là-dessus.
Bon, en tout cas on entend le sourire dans vos voix donc on sent que tout va bien. Merci d'avoir pris quelques minutes ce soir. Vous pouvez rappeler votre compte Instagram hein, parce que vous filmez tout ça, on peut vous suivre au quotidien.
Ouais, exactement, sur Mondial à Vélo sur Insta. Et d'ailleurs, on en profite pour faire un petit coucou à tous les afteriens qui nous ont soit reçus chez eux, c'était assez incroyable,
ah bon,
ou même qui nous ont rejoints sur la route, comme Alessandro en Alsace, enfin, c'était génial. Donc Mondial à Vélo sur Insta. Et voilà, on poste tous les jours, vous pouvez voir nos joies, nos galères.
Merci les gars, merci beaucoup.
Merci
l'after vous suit, l'after
bon
est fier de vous, sachez-le. Et à très vite, on continue de vous suivre. Merci beaucoup, Gabriel,
merci à
Mehdi.
Vous.
Ouais, bonne
ça
nuit.
Fait plaisir, merci beaucoup.
Bon courage
et ouais,
et dodo maintenant, hein. Demain il y a de la route.
Ouais.
Salut les gars, Mondial à Vélo sur Insta. Je rappelle que Kevin aussi est sur Insta. Hein. Kevin Diaz 11, hein, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Et Daniel Riolo maintenant qui est la nouvelle star d'Insta. Là, les influenceurs de l'after sont là.
Daniel Riolo 1.
Ah oui, Daniel Riolo 1 pour avoir le vrai. L'after est là avec Roland Courbis, Kevin Diaz dans un instant, les drôles de dames. Mais d'abord, le futur retraité Eric Salio commente le futur retraité. C'est pas lui le futur retraité. C'est Roger Federer, la Lever Cup, son dernier match, Eric.
Ouais, ça fait c'est une ambiance bon enfant, faut pas vous le cacher. Il y a des sourires, il y a de la complicité entre Nadal et Federer, mais il y a aussi beaucoup de sérieux puisque on voit que Nadal a pas mal raté et ça le met dans une rogne incroyable. Il s'en veut de rater une volée, il s'en veut de rater un retour. Donc oui, c'est une exhibe, mais je pense que Nadal ne veut pas gâcher les adieux de Federer. En tout cas, les deux équipes tiennent leur service. On est à 3 jeux partout dans cette première manche entre donc la paire Federer-Nadal et Sock Tiafoe. Et Federer est au service. Même si à un moment, moi j'ai noté quand même que sur une volée amortie de Sock ou de Tiafoe, je sais plus, là on a vu qu'il faisait son âge. Il n'y avait pas un temps de réactivité extraordinaire. Ouais. Mais voilà, il a 41 ans. Il nous l'a dit, hein, il n'est pas en état de jouer en simple, mais en double, ça le fait largement. Donc 3 partout dans ce double de Lever Cup.
Et on voit aussi que Nadal fait son âge. Alors ça ne concerne pas le tennis, mais plutôt voilà, le non-chevetisme, comme on pourrait dire.
Je lui en parlerai, oui.
Ouais, bon, bonne chance. 23h38, bien sûr, on embrasse tous les chauves qui nous écoutent, évidemment. Dans un instant, les drôles de dames, pour revenir sur les principaux résultats du jour, notamment la victoire de l'Italie contre l'Angleterre. L'after en direct jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, Roland Courbis. Merci d'être là, tout de suite.
RMC, l'after foot. RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Kevin Diaz et Roland Courbis, merci d'être là. Nous sommes vendredi le 23 septembre. Encore un quart d'heure à passer ensemble. Vous nous appelez au 32-16 si vous voulez venir débattre avec Kevin et Roland. Vous nous écrivez sur le hashtag RMC Live, sur Twitter, sur le Direct Studio, sur les applis RMC, RMC Sport, ou vous nous écoutez simplement. Déjà, c'est énorme. Merci beaucoup d'être là. Je vous rappelle qu'on suit en fil rouge le dernier match de la carrière de Roger Federer. Une exhibition, la Lever Cup. Une sorte d'exhibition avec Rafael Nadal, un double qu'il dispute en ce moment. On ira voir Eric Salio dans quelques minutes. Mais il est l'heure à présent d'accueillir les drôles de dames, Julien Laurence, Johan Crochet et Paulo Breitner. Salut les gars.
Salut à tous.
Salut tout le monde.
Bonsoir.
Salut
monsieur.
Salut les amis.
On va revenir avec vous sur les principaux résultats du jour, notamment la défaite de l'Allemagne ce soir à domicile contre la Hongrie 1-0. Mais commençons par le gros match, la grosse affiche de la soirée. L'Italie qui a donc battu l'Angleterre 1-0 dans une sorte de remake de la finale de l'Euro 2021. Et c'est donc à nouveau l'Italie qui s'est imposée. Est-ce que on va commencer avec Johan, mais déjà Johan et Julien tous les deux. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'était pas un super match de football déjà ?
Non, c'était pas un grand match. Techniquement, c'était assez faible. Il y avait pas énormément de rythme non plus. Donc, je sais pas ce qu'en a pensé Julien, mais non, on n'était pas sur un très grand match, clairement pas.
Ouais, c'était pas génial.
Pas génial. Et la conséquence directe de cette victoire de l'Italie contre l'Angleterre, c'est que l'Italie peut encore se qualifier pour le Final Four de cette Ligue des Nations. C'est que l'Angleterre est reléguée en Ligue B. C'est fait. Qu'est-ce qu'on retient là à moins de 2 mois de la Coupe du Monde? Est-ce que vous avez vu un potentiel futur champion du monde en l'équipe anglaise, Johan, Julien? On en est loin, on dirait.
Non. Ouais, hein. Non, pas du tout. Ouais. Mmh. Ça fait donc 5 matchs de suite sans victoire. C'est la pire série depuis 8 ans. Ça fait 3 matchs de suite maintenant qu'ils n'ont pas marqué. C'est la pire série depuis 22 ans. Southgate, d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi, est allé saluer les supporters à la fin du match. Il s'est fait huer. On l'entendait à la télévision. Donc ça devait faire pas mal de bruit parce que San Siro, c'est quand même assez grand. Il n'y avait pas beaucoup d'Anglais non plus dans le stade. C'est très compliqué. Ils ont marqué, donc ça fait même plus que 3 matchs. Ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas marqué dans le jeu. Ils ont marqué un pénalty contre l'Allemagne en fin de match qu'ils avaient sauvé d'ailleurs d'une autre défaite encore. Mais c'est très inquiétant parce que même si dans le jeu ça pas non plus été, on l'a dit, c'était pas un match exceptionnel, mais et donc parfois les Anglais ont plutôt bien bougé le ballon, j'ai trouvé. C'était pas non plus catastrophique à tous les niveaux pendant 90 minutes, mais ça a quand même été souvent aussi affligeant. Et ils ont quand même un énorme manque de créativité. Et quand tu penses qu'un Trent Alexander-Arnold est resté sur le banc toute la rencontre, par exemple, que les premiers changements de Southgate sont à la 70e minute, moi je trouve ça catastrophique. Le Sylvain Ripoll anglais, mais en même temps c'est même une insulte pour Sylvain Ripoll. Avec Hugh, on en rigolait avant par message en disant on va l'appeler le Max Allegri anglais, mais même ça pour Max Allegri c'est une insulte, je trouve. Donc donc voilà, c'est très compliqué en ce moment pour Southgate et pour l'Angleterre.
Mais est-ce qu'il est très critiqué dans la presse, etc., ou est-ce qu'il a encore des appuis?
Alors c'est un peu mitigé dans le sens où beaucoup disent ne le jugeons que sur les compétitions. Oui. Et si tu fais ça, bah forcément, oui, il y a une demi-finale et une finale. Donc bon, à ce niveau-là, c'est sûr qu'on peut rien lui dire. En revanche, il y a une autre partie, une autre frange, si tu veux, que ce soit des médias ou des supporters, qui eux sont plus, donc les plus critiques, qui eux regardent plutôt la globalité de ce qu'il a fait depuis son arrivée à la tête de la sélection, avec effectivement c'est cette finale et cette demi-finale qu'on peut pas lui enlever, mais quand tu regardes le contexte aussi de ces deux compétitions, un, le talent de cette équipe-là, et deux, les équipes qu'ils ont affrontées en allant pour aller jusqu'à la finale, et que dès que ça s'est un petit peu le niveau d'en face s'est corsé, ça a été beaucoup plus difficile pour eux, et puis surtout le manque de progression encore ce soir. La seule fois où ils jouent un petit peu verticalement, c'est l'occasion la double frappe de Kane en seconde période, mais sinon il y a aucune verticalité, il y a quand même aucun rythme dans les circuits préférentiels de passe, enfin voilà, il y a pas grand chose non plus dans le jeu, il faut le reconnaître, hein. C'est pour un groupe aussi talentueux avec des joueurs aussi forts qui est si peu finalement dans la construction et dans les mouvements, dans les jeux de passe, c'est assez dramatique.
Si c'est pas Ripoll, si c'est pas Allegri, proposition, est-ce que ce serait pas le Raymond Domenech anglais?
Effectivement, mais là c'est limite une insulte pour Southgate, mais bon, on n'en est pas loin, donc pourquoi pas.
Kevin et Roland, cette équipe d'Angleterre, et qui a quand même des noms, il y a un effectif, certains.
Non, mais j'écoute ouais. Julien attentivement, des fois je me dis, bah, il doit quand même peut-être un peu exagérer, mais je vois qu'il exagère pas du tout, je le trouve nul.
Ouais. C'est vrai qu'avec un effectif pareil, c'est compliqué de voir ça.
Mais moi, je te dis pas de gagner tous les matchs, mais au moins arrivons à construire quelque chose, un peu plus d'occasion, et de temps en temps, c'est pas interdit de marquer un but. Il y a même plus un but avec l'effectif qu'il y a. Même si tu veux le faire exprès, tu n'y arriveras pas.
Après, je suis désolé, mais il y a le choix des hommes, hein, dans une génération anglaise qui est peut-être. Alors Julien pourra donner son avis, mais pour moi c'est une des plus belles générations anglaises en termes de quantité, hein. Il y a quand même des joueurs exceptionnels sur les 20 dernières années, il y a eu de très très belles générations.
Mais là
je te parle aussi rapport âge talent, c'est-à-dire que c'est des très jeunes joueurs. T'as quand même des joueurs comme Bellingham, Phil Foden, etc., Bukayo Saka. Il y a Reece James sur des latéraux droits. Ils en ont pléthore.
C'est impressionnant.
Mais par contre, comment il peut y avoir encore dans cette défense? Alors ok, Tomori est un peu moins bien et Johan en a aussi parlé. C'est vrai que Tomori est un peu moins bien, mais quand même Harry Maguire est d'ailleurs.
Non mais catastrophique.
Il y a un moment où tu peux pas. D'ailleurs, déjà, il a jamais été défenseur central, même si il joue régulièrement ces dernières saisons. Mais c'est un milieu de terrain. Maguire, il est catastrophique avec son club. Tu le mets titulaire. Non mais c'est compliqué quand même. Il y a un moment, faut installer une autre charnière. Il y a quand même du monde à ce poste-là, même s'il doit y avoir quelques absents. Honnêtement, il y a des choix que je ne comprends pas.
Mais ce soir, par exemple, juste pour finir, de mettre Bukayo Saka en piston gauche,
ouais.
Alors que le gars, à un moment, je veux bien que tu te dises, bon, il est tellement fort qu'il est capable de faire plein de choses sur un terrain, etc. Mais là, c'est franchement, pour lui déjà, c'est une humiliation. C'est un scandale.
L'organisation, exactement, Julien.
Il hésite beaucoup, coach. Tu sais, entre une défense à 4, une défense à 5. Voilà, c'est ça. C'est son grand truc. Au départ, c'était une défense à 3 ou enfin 3 ou à 5. Et puis après, il a voulu changer. Et puis il est plus sûr. Et puis il nous fait des choix n'importe comment, comme ce soir où il fait n'importe quoi avec Saka dans ce couloir à gauche où il est pas du tout à l'aise. Il a pas les repères, notamment défensivement, à la perte du ballon, ce genre de choses là. Et en plus, tu te prives de tout ce qui peut t'apporter avec ballon. Donc c'est
un truc tout bête, le gardien. Je suis désolé. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il a un souci physique, mais comment Aaron Ramsdale n'est pas devant Nick Pope, même si Nick Pope a du talent, mais je sais pas. Ouais. Enfin, il y a des trucs dans cette sélection. Quand je regarde le banc de touche, je suis désolé, mais je comprends pas. Mason Mount, comment t'es pas titulaire? Enfin bref, je sais pas.
L'Angleterre donc battue ce soir par l'Italie, Johan qui se rassure un petit peu, les Italiens qui restaient sur une défaite 5-2 en Allemagne, il y avait pas mal d'absents, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette victoire, la solidité, un bon Donnarumma?
Ouais, et puis même pas simplement la solidité, parce que finalement, moi je trouve qu'en termes d'impression dans le jeu, c'est clairement l'Italie qui m'a fait la meilleure impression ce soir. Alors tu l'as dit, il faut aussi regarder le contexte, et le contexte c'est qu'il manquait Verratti, Tonali, Pellegrini, Chiesa, Spinazzola, Immobile, Berardi, Politano, Zaniolo, Florenzi.
Ah bah oui.
Enfin voilà, je veux dire, avec une Italie bis, il y a eu quand même du jeu, une recherche.
Mais il était pas au courant
d'imposer. Alors c'est pas toujours le réussi. Techniquement, c'est pas toujours réussi. Il y a des joueurs limités dans cette équipe-là.
Il fallait le mettre.
Acerbi est limité. Acerbi et Cristante sont limités. Enfin, il y a plein de joueurs limités dans cette équipe-là, mais il y a une trame commune qui est le jeu, qui est l'état d'esprit tourné vers le jeu, qui est la volonté de se créer des occasions, et ça, c'est extrêmement plaisant. C'est ce que retient évidemment Roberto Mancini. Il a dit aussi quand même que, à la fin du match, que ce résultat était extrêmement important pour plusieurs raisons. La première, c'était de rester dans la Ligue A de la Ligue des Nations. La deuxième, c'était pour se donner encore une chance d'accéder au Final Four. Et la troisième, c'était aussi pour rester tête de série dans le prochain tirage au sort de qualification. Parce que si c'était relégué, ça pouvait être compliqué. Donc, voilà, je trouve que Mancini, encore une fois, montre qu'avec les éléments qu'il a sous la main, et parfois c'est pas que du premier choix, il est en capacité de faire quelque chose avec cette équipe-là. Et c'est évidemment une différence criante avec le Max Allegri anglais. Et très sincèrement, sur des phases de jeu de l'Angleterre, moi j'ai l'impression de regarder la Juve. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec Julien. C'est que Kane, il errait comme Vlahovic. En gros, il essaye de jouer des coudes, etc. C'est un peu la même chose, les mêmes problématiques. Donc cette équipe-là a de la qualité. Il y a quand même, mine de rien, du réservoir. Alors le côté dépressif en Italie de la non-qualification à la Coupe du Monde a fait dire à tout le monde, mais de toute façon on est nul, et puis on est en retard sur tout le monde, et puis de toute façon on n'a pas de bons joueurs, et puis on n'a pas de stars, et puis on est nul, et puis on est nul, et puis on est nul. Bon, une fois que tout le monde s'est un peu calmé, je regardais d'ailleurs, c'est marrant parce que Bergomi, l'ancien très grand joueur de l'Inter, disait ce soir, ah ouais, il y a quand même des bons joueurs, et puis avec les retours de Berardi et Chiesa, on peut faire quelque chose. Bah oui, il est temps de s'en rendre compte. Donc, très sincèrement, c'est un résultat positif. C'est pour casser aussi un peu ce climat de dépression, mais il y avait déjà des très bonnes choses en juin contre l'Angleterre déjà, contre l'Allemagne, le match aller évidemment avant la lourde défaite, contre la Hongrie finalement. Donc voilà. Et puis au rayon nouveauté quand même, je termine là-dessus. Mancini avait testé un 3-5-2 à l'entraînement cette semaine. Il l'a reproposé ce soir. Alors il a abandonné son immuable 4-3-3 et avec les profils des joueurs, entre ceux qui sont partis, les nouveaux joueurs qui arrivent, etc. Je trouve qu'on a beaucoup de joueurs pour jouer en 3-5-2. Donc on verra comment ça va se passer, mais il y a eu des joueurs qui ont montré des choses intéressantes.
Le prochain match, c'est quand
pas toujours génial techniquement, mais très grosse activité, il se bat toujours, il apporte beaucoup de danger offensivement.
Le prochain match, on retrouvera l'Italie lundi, prochain match en Hongrie, et d'ailleurs un match décisif du coup, puisque grâce à cette victoire 1-0, les Italiens sont offerts une sorte de finale dans ce groupe, une victoire contre la Hongrie, et l'Italie sera qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations, ce que ne peut plus faire l'Allemagne, battue l'Allemagne 1-0 à la maison par la Hongrie ce soir, but de Salah au quart d'heure de jeu. Polo, on disait que les Anglais rassuraient pas deux mois de la Coupe du Monde, et est-ce que faut aller au-delà du résultat ou faut arriver à la même conclusion pour les Allemands ?
J'hésitais en t'écoutant, en écoutant Johan et Juju, entre match pourri mais historique ou match historique ou pourri, comme vous voulez. Historique parce que c'est la première défaite d'Hansi Flick, donc en fait on a quand même arrêté une série qui était assez impressionnante pour une équipe qui est en reconstruction, avec certes du talent, mais ce soir on s'est encore une fois rendu compte, avec une équipe qui est allemande qui allait à 60 km/h, pas plus, que lorsqu'elle joue contre des blocs bas, et la Hongrie, moi, que je vénère parce qu'elle embête tout le monde dans ce groupe depuis le début, avec sa défense à 5 qui se projette très très rapidement, etc. Et ben on se rend compte que les Allemands, ils peuvent faire 700 passes pendant la rencontre contre 200 pour les autres, et ils arrivent toujours pas à trouver l'ouverture. Ce soir il y a des joueurs, je comprends même pas le 11 de départ. On était dans une défense à 4 au début, on est passé dans une défense à 3 à la mi-temps en faisant rentrer Kehrer, mais Kehrer il a pas fait une passe correcte à ses coéquipiers.
On l'a vu de presse, hein.
Mais je l'ai vu avant vous, je vous rappelle.
Oui, c'est vrai.
Mais sinon, dans ces équipes qui jouent dans leurs 30 mètres pendant 90 minutes, tu as un Timo Werner, on le met en neuf, mais il sert à rien parce qu'il peut pas utiliser sa vitesse. Donc tu poses la question, pourquoi tu mets pas un attaquant devant qui est un peu plus corpulent, qui peut au moins jouer, embêter les défenses, etc. Je comprends pas pourquoi on fait pas jouer Moussiala dans ce genre de rencontre ou dans les petits espaces on peut jouer. Non, ce soir c'était assez dramatique. Et puis on rate peut-être quelque part une occasion pour la Nationalmannschaft qui avait quand même historiquement des soucis dans cette compétition, qui lui a pas vraiment jamais vraiment réussi, parce qu'en l'emportant contre la Hongrie, bah il y avait une finale à jouer en Angleterre pour la première place du groupe et pour le Final Four. Donc ce soir c'est un vrai coup d'arrêt. D'ailleurs les joueurs, même beaucoup, ont utilisé des gros mots pour expliquer leur performance. Je me dis que l'Angleterre c'est pas mieux, que l'Italie on sait pas s'ils sont là, et bon, en fait je sais pas ce qui va se passer à la Coupe du Monde, mais c'est sûr c'est un coup d'arrêt par rapport à ce que montrer ou comment monter en puissance la sélection allemande.
Merci les gars, Polo, Breitner, Julien Laurence, Johan Crochet, bonne soirée à tous.
Salut les amis.
Salut, on vous retrouve lundi bien sûr pour les deux heures de Drôle de Dame comme toutes les semaines. Salut les gars. Je voudrais juste vous rappeler les principaux résultats du soir. Il y avait ces deux matchs principaux. En Ligue B, la Bosnie-Herzégovine a battu le Monténégro 1-0, un partout entre la Finlande et la Roumanie. La Géorgie, Willy Sagnol a battu la Macédoine 2-0. La Bulgarie a battu Gibraltar 5-1. Voilà pour les principaux résultats. Et puis en amical, ça se passait au Havre, au Stade Océane. Le Brésil a battu le Ghana 3-0. Marquinhos a marqué et Neymar ne s'est pas blessé. Le tennis, le dernier match de Roger Federer, dernier match de sa carrière, c'est un double. On fait un dernier point ce soir, un double avec Raphaël Nadal à la Lever Cup à Londres. Eric Salio.
Ouais, et ça pourrait bien se terminer sur une victoire, puisque Federer et Nadal viennent de remporter la première manche 6 jeux à 4. Ils ont une faculté à hausser le curseur, ces deux-là. Bon, c'est pas étonnant, vous
c'est
me
des
direz.
Bons joueurs, hein.
Mais ouais, ils sont plutôt pas mal, hein, effectivement.
Ouais, ils sont pas mal.
15-1, ouais, non. Et c'est vrai qu'ils ont fait craquer le reste du monde, ouais, peut-être rien que sur leur nom. Donc 6-4 pour Federer et Nadal. Sock et Tiafoe vont essayer de gratter la deuxième manche. Pour ensuite, pourquoi pas disputer un super tie-break, puisque c'est la formule qui veut ça.
En 5, ils auraient pu jouer au tennis.
Je pense aussi, ouais.
Peut-être. Merci Eric. Régale-toi. Et puis nous, on t'écoute demain matin dans la matinale de Mathieu Rouault dès 6h pour le.
Bah, écoutez Federer, surtout l'épilogue en français. Ouais. J'espère qu'il va nous parler une dernière fois, quoi. Tout ce qu'on attend.
Merci Eric, bonne soirée à toi. 23h57, c'est fini pour ce soir. Kevin Diaz, Roland Courbis, merci beaucoup.
Salut.
Merci Max,
salut à tous.
Daniel Henrigi, Adrien au standard. Merci surtout à vous d'être là tous les soirs. L'After revient demain à 21h. Bonne nuit l'équipe, ciao.
RMC, l'After Foot.